Je ne sais pas si vous parlez aux anges, si vous avez un petit ange sur votre épaule qui vous guide. Il y a bien des gens qui croient aux anges, qui croient aux esprits, qui croient à l'au-delà, qui pensent qu'effectivement, on peut communiquer avec nos proches décédés. C'est notre prochain thème parce que mon invité est le journaliste français Stéphane Alix qui, avec ses derniers ouvrages au cours des dernières années, s'est beaucoup intéressé à tout ce qui s'appelle expérience après la mort. Nous l'avions reçu d'ailleurs, Stéphane, il y a quelques années, quand il a publié un livre qui vous a beaucoup intéressé, qui s'appelait « Le test » et qui, en fait, était son expérience avec son propre père. Il avait mis des objets dans le cercueil de son père pour vérifier si les médiums avaient raison de dire qu'ils pouvaient communiquer avec les morts. Stéphane Alix est avec moi. Merci, Stéphane, d'être là.
Bonjour, Isabelle.
Bienvenue au Québec, comme on dit. Là, vous venez de publier « Après, quand l'au-delà nous fait signe ». En fait, c'est que depuis « Le test », vous avez eu plein de témoignages de gens.
Oui, c'est assez incroyable. Mais ça ne fait que confirmer en fait ce que je ressens et ce qui sort de tous ces témoignages quand on commence à écouter. C'est que ces expériences un peu étonnantes autour de la mort, elles arrivent à un nombre incalculable de gens. Et on vit dans notre société, sans doute ici au Québec, pareil qu'en France, en mettant un mouchoir dessus, en disant tout ça n'existe pas, tout ça est surnaturel, tout ça n'est pas intéressant. Et pourtant, voilà, des centaines de milliers de familles chaque année sont impactées par des expériences de cette sorte. Et elles peuvent être utiles, elles peuvent être écoutées. Il ne s'agit pas de se mettre à croire tout de suite à autre chose. Il ne s'agit pas de remettre en question nos certitudes. Il s'agit simplement de créer un espace d'écoute et de dialogue sur des expériences qui peuvent avoir une incidence importante sur notre parcours de deuil.
La première phrase de votre livre est assez percutante. Vous dites « La vie se poursuit après la mort ».
Pour moi, c'est important d'affirmer les choses clairement maintenant. C'est vrai que je pense que le travail que j'ai fait depuis toutes ces années, c'est un travail de journaliste. Je ne suis pas parti dans une retraite spirituelle pour faire un cheminement personnel et intime. J'ai fait un travail de journaliste, j'ai fait des enquêtes. Je l'ai fait avec énormément de sérieux, beaucoup d'exigences. J'ai rencontré des chercheurs, des médecins, des témoins. Et cette espèce de certitude auquel tout le monde se raccroche dans notre monde occidental de dire que la mort, c'est la fin, qu'il n'y a rien derrière, elle ne tient pas debout. Scientifiquement parlant, elle ne tient pas debout. Ça ne veut pas dire qu'on a des preuves définitives que la vie se poursuit après la mort, mais cette espèce de certitude auquel on s'accroche tous, de dire que tout ça se termine, que le cerveau fabrique la conscience et quand le cerveau ne fonctionne plus, tout s'éteint, ça n'est pas étayé, ça n'est pas scientifiquement prouvé.
Mais il y a beaucoup de scientifiques qui l'affirment.
Oui, mais c'est une croyance. C'est une croyance. Et je pense que dans notre société, il y a une espèce de malentendu. Au prétexte que l'on est scientifique, on peut dire n'importe quelle de nos croyances qui ne sont simplement que l'expression de notre inconscient collectif, je dirais, et on fait passer ça pour de la science. Mais ce n'est pas de la science. Et moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est de rencontrer des scientifiques qui étaient allés rencontrer ces gens qui vivent des expériences extraordinaires, des expériences de mort imminente ou tout autre, et qui se sont dit, mais après tout, ça se produit, de quoi il peut s'agir? Et quand on rencontre des scientifiques qui ont vraiment cette ouverture d'esprit, comme votre compatriote Mario Beauregard, par exemple, qui est un neuroscientifique qui s'intéresse à ces questions-là, quand on va vraiment rencontrer ces expérienceurs, ces gens qui ont vécu des expériences curieuses, quand on va interroger ce phénomène, on s'aperçoit que voilà, on n'est pas si certain de cette matérialité de la réalité et qu'il y a peut-être une dimension spirituelle au sein de l'être humain. Je dissocie vraiment pour moi le spirituel du religieux. Pardon. Oui.
Non, ben je vous écoute.
Et je pense que voilà, encore une fois, j'insiste vraiment sur ce point-là. Je suis journaliste. Je ne suis pas ici en face de vous pour vous parler des croyances que j'aurais élaborées dans un cheminement personnel et intime. Je suis aujourd'hui devant votre micro pour vous parler de ce travail journalistique que j'ai fait.
Mais parlez-moi des expériences que vous avez recueillies des gens, justement. Lesquelles vous ont le plus marqué?
Oh, il y en a un nombre incalculable. Vous savez, je pense que quand on fait ce travail, il n'y a pas un moment où on aurait une espèce de révélation transcendante. Je pense que c'est un peu comme dans un tribunal où vous êtes en train d'essayer de prouver la culpabilité de quelqu'un sans avoir nécessairement l'arme du crime ou le corps de la victime. Mais vous allez réussir, en faisant un long travail d'enquête, à apporter un certain nombre d'éléments qui convergent vers la culpabilité de la personne. Moi, autour de la mort, j'ai fait la même chose. C'est-à-dire que je suis allé voir des témoins, des médecins, au départ des témoins d'expériences de mort imminente. Vous savez, ces gens qui ont un arrêt cardiaque et qui vont vivre une expérience de sortir du corps, d'écrire la scène du dessus. Et voilà, je me disais, est-ce que ces expériences-là sont juste une hallucination du cerveau, une sorte de dysfonctionnement, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant qui nous dit de quoi il s'agit? enfin qui nous éclaire sur le fonctionnement de la conscience. Et ça a été ma porte d'entrée à ce phénomène. Et ensuite, voilà, je suis allé rencontrer plein de témoins. Je pense que dans ce livre, il y a plusieurs témoins qui m'ont beaucoup troublé par la puissance des expériences qu'ils ont vécues. Il y a notamment une maman qui a perdu son fils dans un des attentats que la France a connu ces dernières années, et qui est une maman qui n'a pas de curiosité spirituelle particulière, mais qui, quelques jours après ce drame, est allongée dans son lit et a l'impression de voir le visage de son fils lui apparaître dans une espèce de halo lumineux au plafond de sa chambre. Et elle a surtout la possibilité de lui faire un câlin. Elle était déchirée de ne pas avoir pu voir ou prendre son fils dans ses bras après sa mort. Et là, elle fait ce câlin. Et il y a quelque chose en elle qui est certaine d'avoir vécu une expérience réelle. Alors évidemment, tout de suite, on va dire, bah oui, mais elle était tellement triste, tellement déchirée par ce drame qu'elle a inventé cette expérience. C'est une forme d'hallucination. Donc, mon premier souci, ça a été notamment sur ce type d'expérience, d'aller voir des psys en leur disant, bon, bah, c'est forcément la douleur qui crée ces expériences. C'est forcément parce qu'on est tellement triste qu'on imagine voir des choses qui ne sont pas réellement réelles. Mmh. Et à ma grande surprise, notamment le docteur Christophe Fauré, qui est un spécialiste de l'accompagnement de deuil difficile, m'a dit, mais s'il s'agissait d'un mécanisme psychologique, on le verrait partout.
Tout le monde le sentirait.
Tout le monde vivrait une telle type d'expérience.
Ouais. Or, ce n'est pas le cas du tout. Ce
n'est pas le cas. Ouais. Une grande partie des gens qui sont en deuil vivent ces expériences-là, à peu près entre 25 et 50%.
Oui, mais c'est beaucoup de monde quand même. Bah, vous êtes une personne sur quatre jusqu'à une personne sur deux.
Bah, ça fait beaucoup.
Ça fait beaucoup de monde. Là.
Ouais. Et je pense que parmi les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont dû vivre ces expériences-là, qui n'ont même pas osé en parler à leurs proches, à leurs conjoints, en disant « Non, on va se moquer de moi, on va pas me croire. » Voilà. Et
c'est dommage. Vous en êtes venu à penser que la mort, finalement, vous dites la mort est une porte dans votre livre. Donc, pour vous, c'est clair qu'il y a quelque chose après et qu'on peut même, et donc qu'on peut revenir comme personne morte, qu'on peut revenir, envoyer des messages, communiquer, que l'esprit reste.
Oui. Oui, je suis arrivé à cette conclusion, encore une fois, après examen de tous ces récits, après confrontation avec toutes les catégories de personnes qui travaillent sérieusement sur ces questions-là. Je vois aujourd'hui la mort comme une forme de passage transitoire, en fait, entre deux états différents. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, la science rejoint les traditions spirituelles, comme le livre des morts tibétains ou les connaissances chamaniques, par exemple, qui nous parlent de cette transition. La mort est sans doute simplement une sorte de métamorphose où notre corps physique, notre identité, se désagrège et redevient poussière, mais quelque chose d'essentiel en nous continue son existence, continue son évolution, continue un cheminement.
Dans un endroit ?
Dans
quoi ?
On va loin, Isabelle.
C'est là où on refrappe un autre mur parce qu'il faudrait une autre porte encore, parce qu'on ne sait pas où après.
Oui, et puis
si
je pense
que... Si on dit l'esprit reste, mais il reste... Dans quoi, mais encore là, c'est peut-être parce qu'on a des références de lieux, alors que peut-être que c'est pas un espace.
Exactement.
Tout est à refaire, là, tout est à repenser.
Je pense que la difficulté, et d'ailleurs c'est curieux, parce que les gens qui ont vécu une expérience de mort imminente, oui, ils sont donc peut-être approchés de la mort pendant quelques secondes, ils ont un mal fou à vous décrire ce qu'ils ont vécu.
Ouais.
Ils vous disent, j'étais dans une lumière mais qui n'était pas aveuglante, il y avait de l'amour mais c'était 100 fois plus puissant que l'amour
que je ressens. Souvent, ils voient quelqu'un aussi qui leur tend la main.
Ils voient des proches, ils voient des proches décédés. Parfois, ils voient même des personnes dont ils ignoraient l'existence, dont ils peuvent constater après coup que c'était leur arrière-grand-père, leur arrière-grand-mère en découvrant des photos. Mais ce qui caractérise surtout la nature de ces expériences, c'est qu'ils ont l'impression de pénétrer dans un univers qui est beaucoup plus réel, beaucoup plus intense que celui dans lequel nous sommes en ce moment. Et je pense que... Moi, je me méfie un petit peu des descriptions de l'au-delà qui sont données par des médiums ou des gens qui ont vécu, parce que dans ces descriptions-là, je pense qu'il y a aussi beaucoup de projections de nous.
C'est sûr.
Vous savez, c'est comme si vous demandez à 10 personnes d'aller à Venise, elles vous racontent leur voyage. Chacune de ces 10 personnes va vous décrire une Venise différente. Pourtant, ils sont allés dans la même ville. Mais parce qu'on a tendance à colorer ce que l'on voit par notre monde intérieur.
Pourquoi, Stéphane Alix, s'il y a, disons, le quart des gens qui ont eu la visite ou une communication d'un proche décédé, les autres qui n'en ont pas eu là? Puis là, je vais vous parler de mon père. Moi, avec mon père, on avait un jeu, un peu comme vous avec le vôtre. J'ai rien mis dans son cercueil. J'ai mis une lettre que je lui avais écrite après sa mort. Mais on avait cette espèce de... On s'était promis, lui m'avait promis, qu'il reviendrait me chatouiller les pieds après sa mort. Et je peux vous dire, pendant 3 jours, 3 nuits, j'ai pas dormi une nuit pendant vraiment au moins 3 nuits, j'ai surveillé mes pieds. Et j'ai pas eu l'impression qu'il était venu me chatouiller. Alors, il y a une médium que j'avais reçue ici qui m'avait dit « Mais c'est parce que t'as pas été ouverte à... c'était pas ça qui... C'est parce que là, c'était ça qu'on s'était dit. Donc, s'il fait pas ce qu'on s'était dit, là, c'est sûr qu'il a le droit de faire d'autres choses. Mais j'ai pas senti sa présence après. Et là, je me suis dit, ben, comment ça se fait? Parce que s'il y en a... Il y en a qui sont, ils sont chanceux, je trouve, les gens. Moi, c'est ça, là, ce que je trouve fabuleux. C'est que c'est une chance d'avoir une communication. Mais pourquoi il y en a plein qui n'en ont pas de visite après?
Ben, j'aurais deux réponses. La première, qui est pour moi importante, c'est que manifestement, ces expériences-là n'ont rien à voir avec l'intensité de la relation que vous aviez avec le défunt. C'est-à-dire que des gens qui peuvent avoir une relation absolument fusionnelle avec la personne partie ne vont avoir aucun signe. Et d'autres personnes qui, elles, n'ont pas forcément de relations fortes vont avoir des signes de cette personne-là. Donc, ce n'est pas manifestement un indicateur de la qualité de la relation. Donc, il n'y a pas de culpabilité à avoir si on avait une relation fusionnelle avec quelqu'un, qu'il est parti et qu'on n'a aucun signe. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'amour, ce n'est pas parce qu'il est perdu ou je ne sais quoi. Il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. Il y a des paramètres qui nous échappent. L'autre élément important...
Mais dans vos exemples, quand même, dans votre livre, c'est beaucoup des gens, justement, qui avaient des relations extrêmement près. Il y avait cette femme dont le mari s'est tué en parapente.
Oui.
Qu'elle a vu se lever tout de suite après. Il est comme mort. C'est comme dans un film.
Il
s'est relevé tout de suite. Elle a vu son mari se relever puis lui faire un signal en voulant dire « T'inquiète pas, tout va bien, là ».
Oui, ça c'était sur le moment de l'accident,
oui.
Et puis un mois après, elle a, en faisant la cuisine, alors qu'elle ne pensait pas du tout à ça, elle était en train de retrouver un peu d'apaisement, elle relève la tête alors qu'elle fait la cuisine en pleine journée et elle voit l'apparition de son mari quelques secondes dans le salon. Quelques secondes, c'est ultra long quand on est confronté à quelque chose qui n'est pas censé être possible. Et elle est choquée, elle est stupéfaite par cette apparition. Elle est certaine que c'est son compagnon. Et en même temps, voilà, il y a toute cette cascade de doutes parce qu'elle n'a pas particulièrement d'ouverture spirituelle, cette jeune fille dont vous parlez. Donc elle se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis en train de perdre la boule ou je le vois vraiment? Donc effectivement, entre eux, il y avait une relation très fusionnelle. Mais dans ce même défunt, Léo, est apparu à la femme de son meilleur ami. Et elle s'entendait bien, enfin, il s'entendait bien avec cette personne, mais il était beaucoup plus proche de son meilleur ami auquel il n'est pas apparu. Donc, pourquoi elle, pourquoi pas lui? Voilà, je pense que il faut pas se culpabiliser ou commencer à y voir des jugements. Il y a un autre élément important
qui, pour moi, c'est qu'ils viennent nous rassurer, toutefois. Je sens que souvent, les morts viennent rassurer.
Ben, imaginez qu'on meurt là subitement, vous et moi. Quel serait votre principal désir, une fois que vous venez de comprendre. Moi, ça serait celui d'aller dire à ma fille, à ma femme, tout va bien, je vis encore. Et je pense qu'effectivement, la majorité de ces signes sont plus une sorte de volonté de personnes qui viennent de reprendre connaissance dans l'au-delà, qui sont assez stupéfaites de ce qui se passe et qui n'ont qu'une envie, c'est de dire, finalement, tout va bien, relax, je ne suis pas triste. Enfin, vous êtes triste, mais je vais bien et les liens ne sont pas rompus. Et il y a l'autre réponse à votre question qui est intéressante, c'est, je crois que c'est Mario Beauregard d'ailleurs qui m'avait dit ça une fois. Vous savez, les expériences de mort imminente comportent une partie où les témoins disent être à l'extérieur de leur corps.
Ouais.
Donc, des chercheurs se sont dit, facilement, on va créer des expériences où on va mettre des cibles cachées dans les blocs opératoires pour que si des gens sortent de leur corps pendant un accident cardiaque, ils puissent aller voir cette cible et ainsi apporter la preuve qu'ils sont vraiment sortis de leur corps. Malheureusement, cette expérience ne marche pas bien. Et il n'y a même pas eu de résultat extrêmement probant.
Qu'est-ce que vous voulez dire, une cible?
Une cible, c'est-à-dire qu'ils mettent un écran d'ordinateur caché sous le plafond, donc qui est invisible par les personnes qui sont présentes dans la pièce, et cet écran d'ordinateur diffuse de façon aléatoire des images différentes. Donc on part du principe que la personne, si elle est sortie de son corps, elle pourra éventuellement accéder à cet écran et voir quelle image est projetée sur l'écran, et en reprenant conscience plus tard, dire, quand je suis sorti de mon corps dans le bloc opératoire...
J'ai vu telle chose que personne n'aurait pu voir autrement que d'en haut.
Et Mario Beauregard et d'autres personnes qui ont vécu ces expériences de mort imminente m'ont dit, mais vous oubliez un petit paramètre important dans cette expérience. C'est quand on est sorti hors du corps, on n'en a rien à faire d'aller voir un écran moche caché sous le plafond. Ouais. On est dans la lumière, on est dans une expérience d'une transcendance absolue. On se laisse emporter par cette expérience-là. Les paramètres changent complètement. Donc peut-être que l'idée de venir vous chatouiller les pieds était quelque chose d'important pour votre papa au moment où vous en avez parlé. Et puis, dans sa découverte de l'au-delà, dans son voyage qui commençait, tout d'un coup, des milliards de choses lui ont apparu comme beaucoup plus transcendantes.
Ouais.
Et il conserve cet amour, mais tout d'un coup, ce petit signe lui est devenu peut-être moins nécessaire. J'en sais rien, là, je ne veux pas me prononcer.
Mais c'est clair, quand on est vivant, on a tellement besoin de se faire rassurer de l'absence de l'autre, de l'absence... En fait, on a envie de se faire dire « tu vas arrêter de souffrir, attends, ça ne sera pas long ». C'est ça que je trouve le plus dur. C'est pour ceux qui restent toujours, le poids de la mort de l'autre. C'est nous qui le portons.
Il peut aussi arriver qu'on ait des signes auxquels on ne prête pas attention. Moi qui suis journaliste, j'ai toujours eu un regard très critique sur les expériences que j'ai pu vivre en me disant c'est dans ma tête, c'est moi, ça n'a aucune valeur. Et je livre dans ce livre-là plusieurs expériences qui me sont arrivées parce que j'ai aussi su les accueillir et su comprendre qu'il s'agissait peut-être de signes de mon père.
On va aller voir si notre public a reçu certains signes. Je sais qu'il y a beaucoup de gens parmi vous qui nous écoutez, qui ont eu toutes sortes de manifestations de proches décédés. On vous écoute tout de suite après la pause. 1-866 pour nous joindre sans frais. 1-866-790-9850 et à Montréal, 514-790-9850. À tout de suite. Alors, on parle de toutes ces choses qu'on ne maîtrise pas, les amis, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe après notre mort et surtout, qu'est-ce qui se passe après la mort des êtres qu'on aime profondément. On voudrait donc qu'ils vivent encore, ils vivent dans notre cœur, mais on voudrait qu'ils viennent nous voir, on voudrait qu'ils puissent nous parler, on voudrait qu'ils reviennent, en fait, c'est ça le problème. On voudrait qu'ils reviennent, Stéphane Alix. Je pense que c'est ça notre drame, mais ils sont morts. Alors, on entend des choses parfois, on voit des choses. Est-ce que ces choses-là sont réelles? Il y a beaucoup de gens qui, comme vous, Stéphane Alix, qui écrivez là-dessus, je rappelle le titre de votre livre, « Après, quand l'au-delà nous fait signe », beaucoup de gens au Québec ont vécu ce genre d'expérience. C'est entre autres le cas de José. Bonjour, José.
Bonjour, Isabelle.
Racontez-nous.
Écoutez, moi, j'ai eu la même expérience du fait que vous avez demandé à votre père de venir vous essuyer les pieds. Moi, avant que mon père tombe dans... à se faire injecter la morphine et tout pour son décès. Je lui ai dit, papa, si tu viens me voir, viens me chatouiller les pieds et je vais savoir que c'est toi.
Il l'a fait?
Écoutez, j'en ai eu assez peur, Mme Maréchal, que je me suis mis la couverture juste en bas des yeux. Je dis, OK, papa, tu m'en réponds, mais je ne veux pas regarder au pied du lit parce que je sais que c'est toi qui me chatouille les pieds.
Vous êtes chanceuse.
Ça a été vraiment là. J'ai eu une autre aussi expérience. Elle, c'était ma mère qui est venue me voir. Écoute, j'étais allée voir Lisa Williams, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est une médium des États-Unis qui était venue au 10-30, et ma mère s'était présentée. Elle m'a même dit qu'elle m'a demandé si je voulais tout savoir, j'ai dit oui. Elle a fait dire que vos vitres sont sales et que c'est pas propre chez vous. Et effectivement, c'était le cas parce que je vivais une dépression vraiment énorme. Et puis, écoutez, je la sentais venir se coucher en arrière de moi comme si c'était un chat qui marchait sur la couverture.
Wow. Merci. Merci, Josée. On a beaucoup de gens. Alors, je vais passer à Hélène maintenant. Bonjour, Hélène.
Bonjour, Isabelle. Oui, moi, j'étais allée voir une médium. Et puis, la première fois que je suis allée la voir, je n'ai pas parlé parce que je voulais savoir si elle savait. Puis elle me dit que mon mari m'appelait Popoun, puis que ma chatte s'appelait Minnie.
Oui. Mais est-ce puis que là on parle pas des médiums, on parle de nos proches qui sont venus nous rendre visite ou qui ont communiqué avec nous. Est-ce que votre conjoint est venu
Oui. Il est venu me toucher le bras. Je suis sûre que c'est lui.
Vous l'avez senti.
Oui. Oui. J'ai demandé si tu viens, touche mon bras comme tu me touchais d'habitude. Puis, je l'ai vraiment senti.
Ouais.
Puis après ça, j'ai demandé de le voir, mais ça, je ne l'ai pas vu. Mais j'ai vraiment senti qu'il me touchait le bras.
Ça vous a rassuré, Hélène? Ça vous a fait quoi?
Oui, ça m'a rassuré un peu. Puis, je vais vous dire que j'ai vu un peu ses yeux, mais c'était pas en couleur. C'était pas en couleur, c'était comme noir, puis noir-gris. Ah. Puis, c'est ça, j'ai dit, si c'est toi, là, laisse ta main là, puis il a laissé sa main là.
C'est très réconfortant. Merci, Hélène. Pascal, bonjour.
Oui, bonjour, vous allez bien?
Oui, on vous écoute.
Oui, moi, mes parents sont morts il y a 3 ans, 4 mois d'intervalle. Entre le décès de mon père et de ma mère, on était en plein mois de novembre, il faisait froid. Moi, j'ai toujours cru que quand on décédait, on retrouvait les gens qu'on avait perdus. Puis, je me suis rendue sur la tombe de mon père. Il était 8 heures le soir, il faisait noir. Puis, j'ai demandé de me faire un signe comme quoi, oui, il était là, qu'il attendait ma mère, pour pouvoir le dire avec... vraiment y croire quand je le dirais à ma mère. Puis, sur le moment, j'ai pas eu de signe, peut-être parce qu'ils savaient que dans le cimetière, j'aurais peur. Mm. Mais du moment que j'ai rentré dans ma voiture, j'ai vu un papillon. Puis j'étais voir rendu à la maison ce que signifiait un papillon et ça représente l'esprit des morts. Puis je disais, à température qu'il faisait, il n'y en a plus de papillons.
Mm.
Donc j'ai décidé que oui, je croyais que c'était mon père qui m'avait envoyé un signe. Puis après le décès de ma mère, j'ai fait un rêve où mon père venait retrouver ma mère qui était avec moi, comme quoi, oui, ils se sont vraiment retrouvés, puis qu'aujourd'hui, ils sont encore ensemble.
Mm.
C'est vraiment, c'est quelque chose qui... Il me manque, mais je sais qu'ils sont bien. Je pense que c'est important de le croire.
Oui. Merci, merci beaucoup, Pascal. Jérôme, on vous écoute.
Bonjour, madame, mes amis. Écoutez, on va faire ça bien rapidement. Je suis veuf depuis 46 ans. J'ai jamais rien senti, jamais rien touché, rien, rien, rien. Il y a un an, j'ai subi une opération. Je suis mort cliniquement sur la table.
Mm.
Je me suis réveillé. Et je me demandais qu'est-ce qui se passait, mais je me suis pas réveillé. J'étais mort. Et j'ai senti la présence de cette jeune femme-là qui était là il y a 46 ans. Je l'ai pas vu, mais je l'ai senti. Et quelles que soient là, les croyances qu'on a, le construit psychologique ou l'induction de médicaments, ce que j'ai ressenti, là, c'était comment elle était. Et je le sens encore. Ça m'a pas quitté depuis un an. Je l'entends ou je la sens ou je sais pas comment vous dire ça. Ma question, c'est comment peut-on être certain que c'est pas du construit psychologique, un besoin qu'on a ou quelque chose? Mais moi, là, c'est une présence réelle. Il y a eu un avant, puis il y a eu un après. Et je suis pris avec ça. J'ai pas d'explication et ça sert à rien de dire que
Je vais poser votre question vraiment pertinente à Stéphane Alix, parce que Stéphane Alix, c'est mon invité qui vient de publier Après, quand l'au-delà nous fait signe. Et Stéphane, vous vous êtes intéressé à tout ça, toutes ces questions-là. Et puis on en revient toujours à celle que vient de poser Jérôme, c'est-à-dire comment être s'assuré que c'est pas notre cerveau qui a tellement besoin de cette présence qui est plus là, d'être assuré, de savoir qu'on est en communication encore, que c'est pas fini bêtement comme ça après notre mort.
Je crois qu'il y a deux niveaux de réponse. Il y a un niveau de réponse intime, et je pense que Jérôme ou vous, vous savez intimement ce qui s'est passé. Il y a quelque chose en vous, au niveau émotionnel, qui, voilà, Jérôme nous dit, je suis convaincu, il y a un avant et un après. C'est pas anodin. Mmh. Ça veut dire quelque chose. Maintenant, cette recherche de certitude, elle peut ressortir d'un travail statistique. Quand on écoute un témoignage, deux témoignages, on est effectivement confronté à un récit complètement subjectif. C'est difficile de tirer des conclusions importantes sur un type de témoignage. Mais quand on recueille 1000, 2000, 10 000, 100 000 témoignages et que toutes convergent vers un scénario absolument identique, qu'on peut relever des constantes, qu'on peut essayer d'analyser si effectivement il y a des paramètres psychologiques qui pourraient expliquer l'émergence d'une telle expérience et qu'on n'en trouve pas. Par exemple, une hallucination, ça n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe. Une hallucination, ça se produit dans un contexte de délabrement psychique d'une personne. C'est-à-dire que c'est il y a d'autres signes qui sont observables que vous pouvez vous-même observer. Ça va pas, vous fonctionnez plus, vous avez des pertes de repères, vous avez des moments de confusion. Et puis, il y a une hallucination qui arrive dans ce climat de dégradation psychologique qui dure plusieurs heures.
Mais une hallucination, et il y a beaucoup de gens qui en ont, là, avec leurs proches décédés, c'est pas réel. C'est l'esprit qui l'a créé.
Oui, mais surtout, on peut voir, quand on vit quelque chose de curieux, s'il s'agit d'une hallucination ou pas, en observant justement le contexte général. Quelqu'un qui va parfaitement bien, qui fonctionne normalement, qui a conscience dans son monde réel et de fonctionner normalement avec son entourage, si tout d'un coup cette personne voit quelque chose comme la Stéphanie dans mon livre qui voit son compagnon quelques secondes lui apparaître, on n'est pas dans une hallucination. Parce que Stéphanie ne montre aucun autre symptôme de dégradation psychologique par ailleurs. Et ça, c'est encore une fois, c'est un constat psychiatre dont je vous fais part. Il y a un autre élément important dans les témoignages qu'on a recueillis à l'instant, c'est cette sensation de présence, notamment de la part de veuves. Après, il y a un certain nombre de femmes qui ont perdu leur conjoint qui me disent avoir eu cette sensation de présence très forte, une sensation tactile, d'avoir une main de leur compagnon sur l'épaule ou d'avoir même senti le compagnon venir les rejoindre dans le lit. Ça, j'en ai entendu un nombre incalculable de fois. Et il y a une femme notamment qui m'a fait rire, presque rire, parce que son compagnon est venu la rejoindre dans son lit. Elle me dit, mais c'était indiscutablement lui. Il y avait le lit qui s'est enfoncé, j'ai senti sa peau, j'ai senti sa main sur mon épaule. Et j'ai été tellement terrifié. Je lui dis, écoute chérie, je sais que c'est toi, mais ne me fais plus ça. Je suis rassuré, maintenant il n'y a plus besoin que tu viennes, j'ai plus besoin de te voir, je sais que c'est toi.
Mais voyez-vous, le matelas qui serait enfoncé comme pour représenter la lourdeur du corps, si on n'a plus de corps. Comment ça se fait?
Ben, j'en sais rien. Vous savez, je pense qu'il y a... Il y a un facteur important qui m'a été aussi rapporté par des médiums, c'est cette nécessité de mobiliser de l'énergie de la part de ces défunts pour pouvoir se manifester. Et visiblement, ça leur demande de l'énergie, ça leur demande un effort assez important de pouvoir se faire un signe et voir se matérialiser. Donc peut-être que ce travail d'énergie influe aussi sur l'environnement. Comment se fait-il que certaines personnes peuvent sentir une main leur effleurer les cheveux ou leur toucher l'épaule? Ça veut dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de la matérialité qui se densifie l'espace de quelques secondes pour pouvoir envoyer ce signe.
Notre prochain invité, c'est Fred Pellerin, le conteur. Chouchou, on l'adore. Et les Français aussi. Il est souvent chez vous en France. Fred vient de publier un nouvel album de chansons. Ça s'intitule « Après ».
C'est étonnant, ça.
Alors là, j'ai comme une tentation de dire à Fred, « Viens donc joindre à la conversation, nous conter ça. » Alors, c'est ce qui va se passer tout de suite après la pause.
J'ai quitté mes amours, j'ai quitté mes amis, sans nous désunir. J'ai quitté mon parcours, j'ai quitté aujourd'hui, je deviens souvenir. Je redeviens le vent, je fais voler l'oiseau. Je fais chanter l'océan, invisible à nouveau. J'habiterai le printemps, dorénavant. J'ai quitté mes labours, ma peau, mon sang. Je redeviens le vent, la la la.
Je redeviens le vent. C'est un magnifique texte de Martin Léon. La musique de Martin Léon, Emmanuel Laroche. Fred Pellerin, merci d'être là.
Ta voix
est magnifique.
Merci.
Je sais que tu dis partout que tu n'es pas un chanteur, que c'est ton activité secondaire, mais il faut que tu arrêtes de dire ça.
Non, mais j'y mets pas mes journées. Je mets beaucoup partie de mon temps sur les comptes puis tout ça. Mais tu sais, c'est un...
T'es tellement réconfortant, Fred.
Ah ben oui, puis j'aime ça chanter. Puis tu sais, là, ça, cet album-là, c'est le plus proche de ce que je suis, que j'ai fait, là, je pense, là. Il reste à peu près une guitare et une voix. Ouais. Il y a d'autres instruments, mais je veux dire, c'est très subtil. Les arrangements, c'est doux.
On est vraiment dans l'intimité avec toi. C'est vraiment très intime. On est proche. Là, quand on t'entend dire ça. Là.
Puis l'album, il est dépouillé. Là. Ouais.
Et tu l'as appelé après.
Ben oui, là, il y a un drôle de hasard. Quand je suis arrivé en studio, que j'ai vu que vous aussi, si vous jouiez dans l'après. Ben
Stéphane oui. Alix, ouais.
Ben, l'après est peut-être important, en fait.
Ouais.
Ben oui, il faut que je te cite là-dessus. Tu dis « après ». C'est une petite porte installée dans le mur de la fin, la possibilité d'un passage sur le grand recommencement.
Ouais.
Fait que c'est un album sur l'amour, sur la mort aussi, sur l'après, sur tout.
Ouais, mais y a plein
par rapport à tout ce qu'on vient de dire, là, l'au-delà, les morts qu'on communique, qui nous parlent, qui nous reviennent là-dessus.
Ben moi, je peux.
J'aime quelque chose comme ça.
J'aime bien la théorie de Martin Léon là-dessus, sur je redeviens le vent. Là. Martin m'avait raconté une fois son idée de. On est constitué d'atomes.
Ouais.
Puis à la fin, ben on redevient des atomes. Tout ça se défait et toutes les atomes qui ont été cette chose qui nous fait redeviennent comme ailleurs dans les atomes. On respire des atomes. Fait que peut-être que, tu sais, Martin Léon disait peut-être que dans ta joue, il y a un atome qui a déjà été dans la barbe de Léonard de Vinci.
Oui.
Puis peut-être que dans ton ongle, il y a un atome qui a déjà été un bout de vent le soir où ça se passe à Pompéi. Peut-être que... Fait que tu sais, dans l'idée de retourner au grand tout...
Toi, t'as beaucoup d'atomes de lutin.
Peut-être. Mais j'haïs pas cette idée-là j'haïs pas cette idée-là du tout, comme étant ce tout-là dans lequel on replonge après, puis on retourne mourir à la suite.
Mais toi, en plus, tous tes contes, c'est toutes des histoires d'ancêtres, puis de... T'es comme...
J'avais un spectacle sur la mort.
Oui, en plus.
Et d'ailleurs, on travaille un long métrage, un scénario de long métrage sur ce spectacle-là. Ça s'appelait L'arracheuse de temps.
Ouais.
Il y avait un coup de cloche qui annonçait que la mort s'en venait dans le village.
Ouais.
Puis tous les personnages réagissaient chacun à leur façon. Parce que tout le monde, évidemment, quand tu sais que la mort rôde, tout le monde est confronté à sa propre mort, puis dit, c'est moi qui viens chercher. Fait que là, on voyait tous les personnages réagir par rapport à leur mort. Puis j'ai écrit ça suite au décès de mon père, là, parce qu'il y avait un deuil à gérer, puis je l'ai lancé dans les comptes.
Est-ce qu'il est revenu te faire un signe, ton père?
Il y a des petites affaires qu'on pourrait interpréter comme ça. Là. Comme? J'entendais la dame parler du papillon.
Ouais.
Puis maman nous a un peu raconté cette histoire-là du papillon. Puis là, l'autre jour, j'étais dans un moment où que j'aurais pu vivre avec mon père. Puis un papillon qui est venu se poser sur moi.
Arrête.
Il partait puis il revenait. Sous moi, j'ai une vidéo de ça. Puis, fait que, tu sais, oui, il y a des affaires comme ça, mais je suis toujours à me questionner si c'est pas nous qui projetons du sens là-dedans ou non.
Et moi, quand mon père est mort, le 8 décembre, au moment où on l'a mis en terre, puis mon père est mort à la chasse, là, et il adorait en même temps tout ce qui était nature, les outardes sont parties le 8 décembre. Là. Il n'y en a plus, là. Et au moment où on l'a mis en terre, il y a eu un vol d'outardes, mais comme il y en a juste au-dessus de Saint-Élix. Saint-Élix-Cax. Ouais. Il y en a juste en campagne. Là. Il n'y en a pas à Montréal, sur le boulevard Henri Bourassa. Là. Et là, c'est sûr que j'ai vu un signe.
Ouais.
C'est sûr que j'ai vu un signe. Mais peut-être que j'ai tort. Mais tu sais,
on a besoin de ça. Qu'on ait raison ou pas, si ça fait du sens. On est des bêtes à la recherche du sens et tout ça, puis on s'en crée. Là, je veux dire, nos journées sont remplies de sens qu'on colle au réel. C'est pas le réel qui nous donne le sens, c'est nous qui créons le sens, tu sais. Puis après, ben c'est ça. Fait que s'il y a moyen de s'en mettre, de s'en inventer, tu sais, on se vante de faire de la poésie, on se vante de, ben on crée du sens, on crée de la beauté, on crée de. Fait que allons-y, tu sais.
Regardez l'amour.
Stéphane.
On tombe pas amoureux parce qu'on est raisonnable, on tombe amoureux parce qu'il se passe quelque chose d'absolument indicible qui va nous permettre de construire notre existence entière avec une personne. Et on n'est jamais certain, on n'est jamais sûr, scientifiquement parlant, qu'on est amoureux de la personne. Qu'est-ce que ça veut dire, l'amour? Et je pense que ces signes-là, moi, je me souviens de mon père, après la mort de mon frère en Afghanistan.
Ouais.
On est retourné à Kaboul avec mes parents. Et mon père était debout sur la terrasse de la maison à Kaboul et regardait des oiseaux un peu curieux dans le jardin. Et il m'a demandé, mais est-ce que ça, c'est un signe ou pas? Et il n'y a pas de réponse objective. Ce serait faire de la pseudo-science ridicule que de vouloir interpréter avec certitude qu'il s'agit que les outardes sont à preuve. Ou que
les papillons, parce que là, j'y repense. On a des papillons autour.
Qu'est-ce qui se passe en vous? Ma fille aussi, moi, dans des circonstances hallucinantes, a vu un papillon venir sur elle alors qu'elle pensait à mon frère, à son oncle. Donc, mais... qu'est-ce qui se passe en vous quand vous vivez une expérience comme ça? Qu'est-ce que ça touche? Qu'est-ce que ça éveille? C'est ça qui est important. Et peut-être que la question de savoir si c'est vraiment un signe est une sorte de chemin détourné, mais une forme d'impasse, en fait. Parce que qu'est-ce qu'on va avoir comme certitude? Vous allez avoir quelqu'un qui va vous dire c'est une certitude, c'est un signe de l'au-delà, mais vous allez trouver ça peut-être un peu rapide en conclusion. Vous allez avoir un soi-disant scientifique qui vous dit mais tout ça c'est juste dans votre tête, c'est aussi insatisfaisant. La situation elle est peut-être au milieu, dans cet espace poétique où justement on peut accueillir les expériences pour ce qu'elles sont et ce qu'elles peuvent nous transformer.
C'est fascinant de vous entendre, Stéphane Alix. Je rappelle, c'est dommage, je voudrais qu'on continue ce moment-là. Vraiment, là, ici, comme ça, tous les trois, avec les gens qui nous écoutent. Mais je sais que vous devez aller au Salon du Livre de Montréal, qui se déroule en ce moment. Vous serez justement en séance de signature aujourd'hui, demain, toute la fin de semaine, tout le week-end. Je rappelle le titre de votre livre, « Après, quand l'au-delà nous fait signe », publié chez Albin Michel. Merci beaucoup d'être venu nous voir.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. On poursuit avec Fred, c'est sûr. On vous garde. Fred.
Je reste.
Voilà.